RTL. 14h, 15h30, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon.
Merci de nous rejoindre en ce début de dimanche après-midi sur RTL. Je vous avoue que je me mets rarement la pression quand on fait le bon dimanche chaud, mais là, je me la mets un peu quand même. C'est rare qu'on reçoive des génies de la musique assis sur ce fauteuil. C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche chaud aujourd'hui et je suis ravi de vous accueillir, Jean-Michel. Merci d'être là sur RTL.
Merci Bruno, c'est un vrai plaisir d'être ici dans un studio qui ressemble d'ailleurs plus à un gros studio de télé américaine.
Oui, un peu,
il faut bien dire.
Ouais.
Et donc, moi je suis très bien, je suis très confortablement installé.
On va beaucoup parler de vous, on va parler d'un événement qui est dingue, qui s'appelle Versailles 400, que tout le monde va pouvoir vivre en live, puisque ce sera retransmis sur les chaînes du groupe M6, un concert qui aura lieu le 25 décembre au soir, au château de Versailles, vous l'avez compris. Mais avant cela, cher Jean-Michel, nous avons ici ce que l'on appelle le comité d'accueil. Le comité d'accueil, c'est pour chaque invité, des gens qui viennent pour laisser un message, des gens que vous connaissez, du moins je pense, puisque le premier message est d'un certain David Jarre, qui n'est autre que votre fils. Écoutez.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. Je suis David Jarre, le fils de Jean-Michel. Salut Paps. Je voulais partager une anecdote avec toi. Quand j'étais au collège, tu avais l'habitude de garder des After Eight, des petits chocolats à la menthe, dans la boîte à gants de ta voiture. Et parfois, le soir, quand tout le monde était couché, j'allais prendre quelques chocolats dans la boîte à gants de la voiture, et j'ai jamais su si tu le savais ou pas, mais c'est la raison pour laquelle ta réserve de chocolat descendait mystérieusement de jour en jour. Et je sais que toi aussi tu as une histoire et une anecdote avec les After Eight et ton père, donc ça me fait rigoler de savoir que de père en fils, il y a cette espèce d'histoire qui est liée autour de chocolat à la menthe caché dans la voiture. Je vous embrasse tous, passez une bonne émission et à bientôt.
David, qui joue demain soir à 20h au Théâtre de Paris, salle Réjeanne, avec un spectacle de magie, de mentalisme et d'illusion. C'est quoi cette histoire avec les After Eight, cette histoire familiale? Oui, alors,
bon, je savais que ça couvait, cette histoire-là, dans la famille.
Ouais.
Et en fait, c'est vrai que, alors David est un très grand magicien et je suis heureux qui perpétue la tradition de l'illusion et de la magie sur scène et en fait effectivement il y a cette histoire étrange d'After Eight. En fait moi j'ai une histoire avec mon propre père.
Ouais.
Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans et en fait je l'ai peu vu et un jour on vivait avec ma mère dans un tout petit appartement à Issy-les-Moulineaux et un jour il débarque, il avait déjà beaucoup de succès, il était parti aux États-Unis, il débarque avec une superbe voiture de sport rouge et une fille, un mannequin super à tomber à côté de lui et donc de mes 10 ans il m'emmène pour aller déjeuner et donc je m'assois entre les deux et donc je suis fasciné par les cuisses de cette fille qui sont à côté de moi et elle ouvre la boîte à gants et elle me dit est-ce que tu veux un chocolat et c'était des After Eight, je savais pas ce que c'était donc ces fameux chocolats à la menthe et depuis à chaque fois que je mange les After Eight, je pense aux cuisses des filles.
D'accord.
Voilà l'histoire. Bon. Et donc, je pense qu'elle a été perpétué de père en fils avec une. Il doit avoir aussi un lien peut-être particulier à ces chocolats. Donc c'est marrant. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que ça se passe aussi dans une voiture.
Bah, oui.
C'est assez amusant comme histoire. Donc
j'avoue.
Merci David.
Alors dans la famille Jarre, on a eu le fils. Je demande la sœur Stéphanie qui vous a laissé ce message. Stéphanie Jarre.
Bonjour Michel, c'est Steph. Stéphanie, ta petite sœur, j'ai une question pour toi. Pour ton nouveau spectacle du 25 décembre à Versailles, quelles ont été tes inspirations graphiques? Est-ce que tu t'es inspiré d'un univers d'un peintre, d'un architecte, d'un cinéaste? Voilà, ça m'intéresse. Toi qui es un peintre hors pair, d'ailleurs j'espère un jour que tu exposeras tes œuvres parce que pas beaucoup de gens sont au courant de ce talent caché que tu as. Je t'embrasse comme je t'aime. À très vite.
Bon, ça, c'est une question de petite sœur, ça.
Ouais.
Beaucoup plus sérieuse, déjà.
On sent de l'admiration, en tout cas, dans
ce qui est normal, parce que c'est une très grande décoratrice de théâtre, et donc elle est dans l'univers visuel.
Alors, pour le coup, pour la connaître un peu, on peut se dire que c'est une des meilleures en France,
voilà,
Stéphanie.
Exactement, ouais. Voilà. Et donc, chère Stéphanie, effectivement, ce projet est un projet qui est très particulier sur des tas de plans, on aura l'occasion d'en parler, mais notamment sur le plan visuel, où pour la première fois, j'ai en fait créé la totalité de la du contenu graphique grâce à un algorithme d'intelligence artificielle. Mmh. Et donc, je suis parti un peu de l'univers entre Tron et Tim Burton, je dirais, pour les influences. Et donc, avec un côté assez étrange, mais bienveillant. Dans l'espoir de Noël. Mmh. Et donc, ça va être quelque chose d'assez inattendu et qui permet justement visuellement de montrer aussi que la technologie peut exprimer de la poésie. Moi, je suis pas un geek en réalité, même si je suis très, j'adore la technologie comme vous. Mmh. Et les nouveaux outils. Ce qui m'intéresse, c'est finalement le résultat. C'est comme quand on cuisine, on s'intéresse pas finalement à ce qui se passe dans la cuisine, mais dans le plat. Ouais. Et en fait, c'est ça l'idée. Et je suis très content déjà de ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On est à la veille de ce concert qui se présente pour des tas de raisons de manière tout à fait exceptionnelle.
Ça s'appelle Versailles 400. Ce sera le 25 décembre au soir. Un concert que vous allez pouvoir suivre sur l'antenne de W9. Et on va en parler cet après-midi sur RTL. C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche chaud. À tout de suite.
En l'an 1555, le mage et astrologue Nostradamus prédisait déjà le bon dimanche chaud.
À la radio, une émission chevauchée par Bruno Guillon, avec ses invités prestigieux et des blagues inspirées par les dieux.
Visionnaire, le gars. Bruno Guillon sur RTL.
Et la pizza à l'ananas, c'est vraiment fort dégueulasse.
Visionnaire.
Alors je dois dire simplement que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, sauf la pizza à l'ananas que j'adore. Donc je m'inscris en faux, totalement.
Jean-Michel Jarre fait son bon dimanche chaud sur RTL, Versailles 400. Voilà, c'est le 25 décembre au soir, c'est un projet un peu dingue. Vous allez célébrer les 400 ans du château de Versailles en proposant un concert-spectacle unique et immersif. Alors quand on parle de concert de Jean-Michel Jarre, c'est toujours unique. Mais là, le côté immersif rajoute à l'ouvrage, c'est-à-dire que on va pouvoir le suivre, on le disait, en live pour ceux qui seront au Palais des Glaces, à la télévision sur W9, mais également sur le métaverse. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose assez dingue, notamment grâce à un casque français de réalité mixte qui est le casque Lynx. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros cette technologie, Jean-Michel ? Comment ça va se passer ?
Alors en fait, l'idée de cette célébration du 400e anniversaire de Versailles, elle a démarré avec l'idée que, en fait, au moment où on construit Versailles, c'est une bande d'allumés et de visionnaires complets qui créent ce château, mais en même temps, une révolution technologique complète. C'est là où on présente les premiers convecteurs solaires qui sont l'ancêtre des panneaux solaires, les premières machines électriques, les premières machines volantes avec Montgolfier. Et donc Lully, sur le plan musical aussi, qui bouleverse la manière dont on va jouer la musique d'orchestre sur scène. Et donc l'idée, c'est finalement de créer un lien dans cette espèce de délire de savoir-faire français et d'innovation avec l'innovation d'aujourd'hui, c'est-à-dire notamment dans le domaine technologique, qu'est-ce que le développement de l'intelligence artificielle. Donc j'ai créé beaucoup d'images, comme je le disais, liées avec un algorithme d'intelligence artificielle, et notamment le métaverse dont vous parliez, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser la réalité virtuelle de manière, je dirais, bienveillante et poétique. C'est un peu comme dans Cocteau, c'est de passer de l'autre côté du miroir. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme vous le disiez, je suis en direct dans la Galerie des Glaces face à un public, je dirais, standard, c'était ouais. Normal, comme un concert habituel, mais en même temps, je suis en direct en réalité virtuelle grâce à une start-up qui s'appelle Vroom, qui a développé une plateforme de concert virtuel, et donc des gens qui peuvent être à Singapour, à Los Angeles, à Berlin ou ailleurs, à travers leurs jumeaux numériques que sont leurs avatars, vont pouvoir assister au concert en VR, et devant leur chaîne de W9, vont pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois le passage du concert réel au concert virtuel. Et tout ça grâce, comme vous le disiez, à un casque que je vais porter sur scène, qui me permet d'être en contact à la fois avec le public réel et le public dans le métavers. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça permet de repousser les frontières de ce qu'on peut faire en tant qu'artiste vis-à-vis du public. Des tas de gens, en répétition, je vous donne un exemple, en répétition, je vais dans la galerie virtuelle Michel qui a été reconstitué. Et là, je vois des fans qui étaient là avec leur casque. Donc, et donc, il y a une fille qui était là, qui avait dansé pendant la répétition. Et qui est, et je lui demande où elle est. Elle me dit, je suis à Manchester. C'est-à-dire qu'elle était à Manchester. Dang. D'accord? Et elle me dit, elle me pose plein de questions. Et je réalise au bout du compte que cette fille était tétraplégique. Que c'était la première fois qu'elle assistait à un concert et qu'elle avait dansé toute la soirée. C'est aussi ça c'est que la technologie aujourd'hui, paraît. C'est-à-dire, propose et permet d'élargir son contact en tant qu'artiste avec le public et de présenter des choses de manière différente et spécifique.
Alors le métaverse, c'est un champ des possibles infini justement. Est-ce que cette galerie des glaces que l'on va pouvoir avoir dans le métaverse pour suivre votre concert va être à l'identique de celle qui est dans le château de Versailles ou un peu stylisée ou laissant libre cours à votre esprit artistique pour amener quelque chose de différent?
Alors c'est vraiment une très bonne question intéressante parce qu'en fait j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je suis parti, on a conçu la galerie des glaces en virtuel un peu à la manière de Tron 2,
ouais,
les gens
ouais,
qui ont vu le film,
ouais.
D'accord,
film d'animation,
et en fait l'idée c'est de s'inspirer de ce que nous avons fait dans le virtuel pour la scénographie dans la galerie réelle.
D'accord.
En fait la galerie réelle va être transformée en copiant d'une certaine façon, ou s'inspirant de ce qu'on a fait dans la galerie virtuelle. Donc il y aura une véritable, pour les gens qui vont regarder la captation, le film et le direct, il y aura vraiment cette espèce d'osmose d'un univers à l'autre d'une manière très fluide de passage.
Oui, ça veut dire que les téléspectateurs, les téléspectatrices de W9 le 25 décembre verront les différents mondes entre guillemets où se passe le concert.
Absolument, il n'y a pas besoin.
Le live depuis le Palais des Glaces, on n'aura pas besoin d'être en même temps sur l'ordi pour voir ce qui se passe.
Absolument,
dans le métaverse, on aura des images.
Besoin d'avoir de lunettes ou de quoi que ce soit, c'est retransmis en sur W9 et en audiovision, puisque c'est en même temps retransmis un peu partout. Et donc les gens sur leur laptop, sur leur smartphone ou sur leur écran vont pouvoir suivre le concert dans les deux mondes, ce qui est une première, en plus d'être un vrai plaisir sur le plan artistique et créatif avec l'équipe avec laquelle je travaille.
Bon, Jean-Michel, je le disais tout à l'heure en préambule, vous êtes un monument de la musique électronique. On est à la limite de la légende. Moi qui travaille sur une autre radio où il y a beaucoup de DJ qui viennent mixer, de David Guetta à Martin Solveig, à Armin van Buuren, etc. Quand on parle de Jean-Michel Jarre, vous faites partie de ces légendes de la musique électronique. Vous avez joué partout dans le monde. Vos concerts sont à chaque fois des événements. Vous avez joué devant des monuments emblématiques ou insolites. Eh bien, nous allons voir, cher Jean-Michel, si vous avez des points communs avec eux. Est-ce que, comme les pyramides du Caire, on n'a pas encore percé tous vos mystères, Jean-Michel Jarre?
C'est possible, comme les vôtres.
Heureusement. Est-ce que, comme l'Acropole en Grèce, vous avez peur parfois de tomber un peu en ruine?
Écoutez, bon, je me fais suivre quand même régulièrement par mon cardiologue, donc jusqu'à maintenant, il m'a dit que c'était bon, donc on va voir. Enfin, déjà, je compte quand même passer déjà le Noël.
D'accord.
À peu près en état, quoi.
Est-ce que, comme la Tour Eiffel, au début, le public ne voulait pas de vous?
Absolument. Moi, Oxygène était refusé pratiquement par toutes les maisons de disques.
Dingue.
Et finalement, c'est un label, petit label
Dreyfus,
Dreyfus qui a sorti l'album. Et je me souviens qu'au début, on marchait sur les Champs-Élysées et on voit Elton John sortir d'un magasin de disques avec 12 albums. Et je me souviens de Francis Dreyfus me disant, je pense que ça va marcher.
18 millions d'albums vendus.
Exact.
D'Oxygène.
Oui, c'est en fait aujourd'hui d'ailleurs l'album français qui a été le plus vendu. Ouais.
Ça change quoi dans une vie?
Pas mal de
choses. Au-delà de l'aspect mercantile et je veux dire bêtement économique, ça change quoi? On se dit ça y est, le monde entier connaît ma musique et ça ouvre un champ des possibles qu'on n'avait pas forcément imaginé avant.
En fait, je pense que quelle que soit la dimension du succès et tous les artistes qui connaissent un succès vis-à-vis du public, il y a une chose qui est déterminante et qui, à mon avis, est la plus importante, c'est le fait que tout ce qui était en gestation et au niveau de fantasme dans sa tête en se disant j'ai une idée, je voudrais bien la réaliser et finalement qu'elle trouve un écho avec les gens. Finalement, le fait d'avoir un succès qui en plus dépasse les frontières fait que finalement on se dit c'est une voie au fond. J'avais pas tort finalement de m'entêter parce que depuis très longtemps moi j'avais cette obsession de pouvoir créer un lien entre la musique expérimentale et la pop et finalement Oxygène c'est ça, Oxygène qui sort en même temps en pleine vague disco et en pleine vague punk. Donc c'est un ovni complet.
Ouais.
Et donc le fait que ça puisse finalement intéresser et toucher des gens de continents complètement différents, effectivement à la fois vertigineux, mais en même temps aussi rassurant, si on peut dire.
Jean-Michel Jarre, est-ce que comme sur la place Tiananmen, il y a toujours un vent de rébellion qui souffle en vous?
Je pense que je tiens ça de ma mère, qui était une grande figure de la résistance, ouais. Et qui m'a toujours insufflé justement le fait de pouvoir penser, comme on dit en anglais, outside the box, en dehors des normes. Et que, en fait, pour un artiste, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir justement toujours être, essayer d'explorer ce qui se passe en dehors des normes. Et c'est, je pense, ce qui m'a toujours conduit là où je vais aujourd'hui, dans n'importe quel projet, que ce soit projet de concert ou projet d'album ou quoi que ce soit.
Et enfin, est-ce que, comme dans le désert de Merzouga au Maroc, vous aimez vous retrouver seul avec vous-même ?
Oui, ça me dérange pas.
C'est un besoin quand vous composez,
Vous savez, la musique électronique a ça de particulier. On est un peu comme les peintres et les écrivains, c'est-à-dire qu'on est dans notre atelier, on est assez isolé. C'est pas comme dans le rock, où en fait c'est la raison pour laquelle il y a quelques années j'ai voulu faire ce projet Electronica, d'ouvrir la fenêtre de la porte du studio et d'aller travailler, d'aller qu'on mette les mains dans le cambouis ensemble, physiquement, avec des gens que j'aimais beaucoup. On parlait d'Armin van Buuren tout à l'heure, ou de Massive Attack, ou de Pete Townsend, ou de Gesaffelstein, R, ou qui que ce soit, ou Moby, ou autre, de vraiment partager ce moment, de comme on le fait en ce moment dans le studio, de manière physique, d'être au même lieu physiquement. Et donc oui, le travail de musique, de composition de musique électronique, c'est un travail plutôt solitaire, effectivement, au départ.
C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche show sur RTL. On parle de Versailles 400. C'est l'événement de ce 25 décembre et vous allez pouvoir le suivre. Et c'est un véritable cadeau que vous fait W9, suivre en live depuis le Palais des Glaces à Versailles ce concert exceptionnel de et avec Jean-Michel Jarre, dont on parle cet après-midi sur RTL. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche show sur RTL. Versailles 400, un concert spectacle complètement dingue, créé par Jean-Michel Jarre. Ce sera le 25 décembre au soir. Comment ça se passe pour faire un truc à Versailles? Parce que moi, j'ai déjà eu des échos de réalisateurs de cinéma. Quand on veut tourner in situ à Versailles, c'est l'enfer. Il y a des timings à respecter, etc. Je suppose que vous n'avez pas dérogé à la règle pour pouvoir monter ce spectacle qu'on va vivre là le 25 décembre.
Absolument. D'abord, il y a une loi, c'est qu'il faut bien s'entendre avec les équipes de Versailles. Et ça se passe très très bien. Il y a le boss sur le plan technique et logistique qui s'appelle Laurent Brunner, est un type extraordinaire qui m'a beaucoup et qui nous a beaucoup facilité les choses, sans qui on n'aurait rien pu faire. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est très compliqué pour plein de raisons. Il y a des raisons logistiques, des raisons d'horaire par rapport au public qui est là en permanence. Il y a aussi la fragilité du lieu. Donc il y a tout un ensemble de services qu'il faut à coordonner. Mmh. Et donc il faut arriver à ce que tout le monde se comprenne bien. Et comme c'est un projet qui techniquement est assez pointu, puisque il y a des caméras volantes à travers les lustres, il y a des caméras robotisées pour la captation, il y a tout un équipement particulier, et surtout le problème d'horaire. Et le problème principal qu'on a, c'est qu'on va pouvoir s'installer. Et commencer à s'installer seulement le 24 au soir, le 24 à 20h, c'est-à-dire exactement 24 heures avant le live. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on répète avant, dans d'autres lieux, à l'échelle 1, et qu'on puisse programmer la totalité de la lumière, de la vidéo, etc., pour qu'on n'ait plus qu'à installer l'équipement le jour J.
Jean-Michel Jarre, durant votre carrière, vous avez croisé de nombreux artistes. Certaines histoires sont connues, d'autres un peu moins, mais je me suis dit que le mieux, c'était encore de remonter à la source. Je vous propose de vous faire écouter certains de ces artistes, d'accord ? Et ensuite, vous allez nous raconter le souvenir que vous avez de cette collaboration. Parmi les personnalités avec qui vous avez collaboré, cher Jean-Michel Jarre, il y a également Hans Zimmer. On entend derrière nous la musique du film Pearl Harbor, c'est l'un des plus grands compositeurs de musique de film. C'est pas le premier nom qu'on imaginerait associé au vôtre, et pourtant vous avez collaboré ensemble sur le titre Electries, de l'album Electronica dont on parlait tout à l'heure. Ça s'est passé comment, cette collab avec Hans Zimmer ?
Alors en fait, il faut pas oublier que Hans Zimmer, il est allemand au départ, et il vient aussi de la musique électronique. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que la musique électronique, elle est née en France et en Allemagne. Elle a rien à voir avec le blues, le jazz ou le rock.
Ouais, on oublie souvent, etc.
Évidemment. Ouais. Et les pionniers comme qu'on connaît moins, mais qui sont les fondateurs de la manière dont on fait de la musique aujourd'hui, des Pierre Henry, des Pierre Schaeffer, des Stockhausen, ouais, qui sont les vrais pionniers du début du XXe siècle, sont des gens qui en fait ont créé la grammaire musical d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a été les premiers à se dire, on va finalement mélanger des bruits, les bruits de la rue, les bruits de la vie, au son d'orchestre, c'est-à-dire mélanger le son d'un oiseau avec une clarinette ou le son d'une machine à laver ou d'une voiture avec des percussions. Et finalement, ce côté totalement iconoclaste de cette époque, c'est devenu le langage aujourd'hui, qu'on fasse du rap, du hip-hop, de la techno, de l'électro, on mélange tous des sons avec la musique. Et du coup, Hans Zimmer vient de cette tradition-là. Et en fait, dans le projet Electronica, qui était l'idée justement de collaborer avec des tas d'artistes différents, j'étais à Los Angeles, je rencontre Hans Zimmer, et bon, qui a eu la gentillesse de me dire que c'était un grand fan depuis toujours, et on s'est retrouvés en studio, dans son studio absolument incroyable, pour faire ce morceau Electries, qui était en fait un croisement entre le côté cinématique et cinématographique de Hans, et puis le côté électronique que nous aimons tous les deux.
Je voudrais passer un extrait d'un groupe avec qui vous n'avez pas collaboré. Parce que en préparant cette émission, Jean-Michel Jarre, j'ai appris que vous aviez dit non à Mick Jagger. Enfin, vous avez failli collaborer ensemble sur l'album Emotional Rescue et ça s'est pas fait.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mick Jagger, je l'ai rencontré pour la première fois au concert de la Concorde. Après le concert de la Concorde, il y a un gars qui se penche vers moi et qui ressemblait à Fidel Castro, qui avait une barbe comme ça. Quand je fais ça à la radio, on voit pas, mais
c'est
voilà. Et qui me dit, j'ai jamais rien vu de pareil, c'est incroyable, etc. Et donc, je lui dis, merci beaucoup. Et moi, j'étais satellisé, je le reconnais pas du tout. Et en fait, on me dit, tu sais qui c'est? C'était Mick Jagger. Et du coup, on est resté après en contact. Il avait envie, quand j'ai fait le concert en Chine, de venir, parce que le seul pays à l'époque où les Stones étaient jamais allés, c'était la Chine. Donc, il voulait même venir à titre solo dans l'histoire. C'est compliqué, ça s'est pas fait. On a gardé cette relation, et puis à un moment donné, j'étais en vacances dans le Midi, et le bureau de maison de disque appelle en disant il y a l'agent des Stones et de Mick Jagger qui a appelé parce qu'il voudrait que tu puisses collaborer au prochain album qui était en Emotional Rescue. Et en fait, il y a toujours eu ce combat entre Keith Richards et Mick Jagger, où Mick Jagger voulait toujours surfer sur l'air du temps et explorer des nouveaux styles, et le gardien du temple qui était Keith Richards en disant pas question, le blues c'est le blues, on déconne pas avec ça, et donc voilà. Mais bon, ça se fera peut-être encore un jour puisqu'ils sont en pleine forme.
Évidemment. L'histoire du studio 54, on a entendu dans l'illustration Patrick Juvet I Love America. Où sont les femmes de Patrick Juvet? C'est vous aussi, Jean-Michel Jarre.
Sur l'hymne de la Gay Pride, et donc tout à fait, je dirais, contribuant au côté prémonitoire de ce qu'allait le studio 54. Ouais. Et effectivement, ça a été aussi, moi, ma période disco, puisque j'ai produit et écrit plusieurs titres de Patrick Juvet, dont Où sont les femmes, qui est effectivement, et aussi Paris by Night, qui est probablement considéré par les Américains comme un des premiers morceaux de house, puisque en fait la batterie n'était pas faite par des boîtes à rythme, mais par des vrais batteurs qui avait très très peu de gens qui étaient capables de garder un tempo régulier pendant 12 ou 15 minutes. Il y en a très très peu. Ouais. Et donc, du coup, c'est une période, le studio 54, que je connais, que j'ai bien connu aussi.
Et si je peux me permettre, Paris by Night est un des plus grands titres de Juvet. Moins connu par le grand public.
Je suis d'accord.
Mais pour moi, dans la carrière de Juvet, c'est même le meilleur. Voilà.
Merci.
C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Versailles 400, un concert spectacle innovant par Jean-Michel Jarre que vous allez vivre, notamment sur W9. Puis on lisait également sur le métaverse. Vous êtes un habitué des concerts complètement dingues. Je voudrais revenir à 1979 pour la fête nationale. Vous donnez un de ces concerts qui deviendra votre signature. Ça se passe à Paris, place de la Concorde. Avec l'anecdote avec Mick Jagger dont vous nous parliez tout à l'heure, vous entrez pour la première fois dans le livre des records. À ce moment-là, quand vous faites ce concert, pour vous, c'était un one shot, ou alors c'était déjà une idée de marque de fabrique et vous vous disiez, je vais faire des événements comme ça complètement dingues?
Ah non, pas du tout, c'était totalement expérimental. Moi, je me creusais la tête pour savoir comment arriver à être sur scène avec des instruments venant du rock. Le rock, c'est une musique de partage où on a des instruments qui sont clairement identifiables par le public. C'est-à-dire que quand on voit une basse, une guitare ou une guitare électrique, une batterie, tout le monde sait le son que ces instruments vont produire. Quand on est derrière un synthé, on sait pas ce qu'on fait. Et avec les laptops, ça s'est pas arrangé. Donc en fait, très tôt, je me suis demandé comment arriver à visualiser et à porter la musique sur scène. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de salles qui étaient faites pour la musique électronique. C'était plutôt des salles qui étaient ou des salles pour le rock ou pour le théâtre ou pour le jazz, ou des salles omnisports où le lundi on a un congrès d'un parti politique, ouais. Le lendemain un match de basket, et puis t'arrives dans un endroit qui est pas vraiment fait pour ça. Ouais. Donc très tôt je me suis dit, ma musique, moi j'ai envie de la jouer à l'extérieur, donc une échelle différente et avec des technologies aussi différentes, donc en mêlant les projections géantes, la vidéo, la lumière, etc. Et donc ce projet était totalement expérimental. Très peu, il y a eu très très peu de promotion d'ailleurs. Et en fait, il y a 1 million de personnes qui sont venues, et j'ai mis moi 1 an à m'en remettre parce que c'était un choc complet. Donc c'était absolument pas planifié. Et d'ailleurs, tous les concerts que j'ai pu faire après, les gens ont pu imaginer que c'était des choses que j'avais planifiées. Or la plupart du temps, comme d'ailleurs Versailles encore, ce sont des demandes qui m'ont été faites. Et donc du coup, on est parti à chaque fois dans l'inconnu, oui, ouais. par rapport à des projets qui à chaque fois pour moi, me permettait d'explorer une manière d'exprimer la musique électronique d'une manière que j'avais en tête, c'est-à-dire, comme le disait ma sœur tout à l'heure, moi j'hésite entre la peinture et la musique, donc en intégrant beaucoup de techniques visuelles dans la musique que j'avais envie de partager avec le public, quoi.
Mais alors justement, quand vous parlez dans vos concerts d'après, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes en 80, vous devenez le premier musicien occidental à vous produire en concert en Chine. Il faut recontextualiser à l'époque, on est en 1981, comment on met en place ce projet et surtout est-ce que ça se prépare différemment un concert qu'on va faire à Paris à domicile et partir à Shanghai.
Oh bah c'était comme d'aller jouer sur la lune pour des deux côtés d'ailleurs, puisque en fait le concert à cette époque-là, c'était quelque chose qui était novateur d'un point de vue occidental ou européen ou français, et donc d'aller en Chine pour un public, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, le public chinois connaissait pas les Beatles, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe ou toute la culture de l'Ouest. Donc d'arriver avec une musique avec des synthés, avec des musiques électroniques, avec du laser, etc., était quelque chose qui était, pour eux, c'était rencontre du troisième type. Et pour nous aussi. Et donc, ça a posé énormément de problèmes techniques. Encore une fois, c'est une demande qui a été passée d'ailleurs par l'ambassade de Grande-Bretagne. Ce sont les Anglais qui sont à la base au départ, qui ont donné mes albums à la radio chinoise. Et il se trouve que donc mes albums ont été les premiers albums de musique occidentale à passer après la période maoïste. Et donc, j'ai eu une demande pour aller faire une sorte de masterclass à l'école de Pékin et de Shanghai, et de là est venue cette demande des Chinois, et on n'a jamais su d'ailleurs qui, parce que les gens avaient tellement peur à l'époque de pouvoir faire quelque chose qui puisse leur retomber dessus, on n'a jamais su qui nous avait invité, qui m'avait invité, et ça c'est resté une sorte de zone grise comme ça, et qui a conduit à des concerts absolument incroyables à Pékin et à Shanghai, et la porte s'est refermée après, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'années avant que d'autres musiciens et d'autres artistes puissent se produire à nouveau en Chine.
J'aurais pu vous parler de vos concerts, notamment à Houston, mais j'aimerais parler d'un concert qui n'a pas lieu. On est en 91, vous avez un projet monumental qui doit se dérouler au Mexique, qui doit être couronné par une éclipse lunaire, un truc extraordinaire, et pourtant le concert n'aura pas lieu, parce que le bateau qui transporte le matériel sombre, c'est ça l'histoire ?
C'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le Mexique me contacte parce qu'ils voulaient que je fasse un concert pendant l'éclipse du soleil, au pied de la pyramide de la lune et du soleil, qui est à Teotihuacan, qui est un endroit incroyable. Donc, je pars là-bas, je commence à composer avec des musiciens du CRU. Enfin, c'était un projet musicalement et sur le très intéressant. Donc, tout se passe. C'est un peu comme Fitzcarraldo, si les gens ont vu le film, ce film où un gars essaye de faire traverser traverser l'Amazonie avec un bateau et tout se casse la gueule. Et en fait, la pyramide qu'on avait construite pour le concert de la Défense en 91 part de Norvège pour aller au Mexique par bateau. Et en fait, le bateau sombre dans l'océan et donc déjà, on perd une partie de la scène. Ensuite, au Mexique, c'est l'élection. Il y a une élection et en fait, il y a deux présidents. Parce que personne ne veut, c'est un peu l'histoire de Trump, mais bien avant, c'est-à-dire que le président perdant ne veut pas partir, et donc on se retrouve dans une scène hallucinante dans le cabinet présidentiel pour parler de ce projet, où il y a les deux présidents et les Indiens propriétaires de Teotihuacan qui sont assis par terre à fumer autre chose que des gitanes, on va dire, comme disait Gainsbourg. Ouais. Donc la confusion est à son comble. Et comme la devise du Mexique, c'est Mañana, Mañana, et que le soleil n'attend pas, à 3 semaines du projet, ils ont fait venir 500 000 billets de Los Angeles, c'est un projet de dingue. 500 000 billets par camion blindé pour éviter qu'il y ait des copies, etc. Et en fait, les affiches sont dans tout Mexico et le concert n'aura pas lieu puisque 3 semaines avant, il n'y a pas l'argent de la production, rien à la mexicaine de cette époque-là, ouais. rien n'est prêt, et donc on est obligé d'annuler, et donc je n'ai pas pu manger de nourriture mexicaine pendant à peu près 3 ans et demi.
C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Jean-Michel, on va faire avec vous ce qu'on fait avec tous les invités chaque dimanche. On va se plonger dans les critiques du web. À tout de suite.
Aujourd'hui, le Bon Dimanche Show reçoit le meilleur invité qu'il n'ait jamais eu. C'est complètement faux. On repassera ce jingle la semaine prochaine. Bruno Guillon sur RTL, jusqu'à 15h30. Ça fait plaisir quand même.
Ouais, sauf que là quand même, Jean-Michel Jarre, je pense qu'on est sur un des meilleurs invités qu'on a eu dans le Bon Dimanche Show sur RTL. Versailles 400, c'est le 25 décembre au soir, un concert événement. Vous allez avoir la chance de pouvoir vivre en direct et ce sera en direct à la télé sur la chaîne W9. Jean-Michel, c'est le moment dans l'émission où on fait les critiques du web. Alors je vous explique comment ça se passe, on le fait avec tous les invités. On prend l'œuvre d'un de nos invités, si c'est un chanteur ça peut être un disque, un livre s'il s'agit d'un auteur, un film s'il s'agit d'un acteur ou d'un réalisateur, et on va sur les sites marchands, par exemple Amazon, pour voir les critiques qui ont été laissées. On les prend si elles nous font rire, bonnes comme mauvaises. Et plutôt que de vous les lire telles quelles, on s'amuse à les passer dans un logiciel d'intelligence artificielle. Donc je vais vous faire écouter des critiques laissées sur un site marchand français, mais on les a traduites dans une autre langue. Je vous fais écouter la critique dans la langue et vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise critique et on la découvre ensemble après. On a récupéré des critiques sur Oxygène. C'était le premier album du nom, sorti en 1976. Et la première critique, on l'a mise en coréen.
이 제품은 푸넥보다 10유로 저렴했기 때문에 아마존에서 구입했습니다. 잘 포장된 좋은 판매자 추천합니다.
Bonne ou mauvaise critique?
Il faut se méfier du ton. Le ton peut être un peu sucré,
ouais.
Mais le fond peut être acide.
Donc
je me méfierais, je dirais plutôt moyen.
Peut-être. C'est une bonne. Alors, encore une fois, je rappelle que ces critiques laissées par les internautes peuvent permettre à un album d'avoir une note plus ou moins élevée. Et là, pour le coup, il vous a mis 5 sur 5, Totor. Il a dit, voilà, j'ai acheté ce produit sur Amazon parce qu'il était 10 euros moins cher qu'à la Fnac. Et en plus, il était disponible, bien emballé, vendeur sympa, je recommande. Voilà. Donc, on parle pas du tout du contenu de l'album, mais le gars était content.
Ce qui est intéressant sur ce message, c'est qu'il faut savoir que 40% des vinyles achetés aujourd'hui ne sont jamais écoutés. Les gens téléchargent la musique et gardent le vinyle
pour l'objet.
Comme objet et le regardent et le consultent pendant l'écoute. Donc c'est assez, ça rend humble. Donc effectivement, ce message est assez révélateur de la situation dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis des disques aujourd'hui.
Ça tombe bien que vous parliez de vinyle puisque voici la deuxième critique. Elle a été transformée en bengali.
আমি এটি রেট্রোসাইডের জন্য ভিনাইলে কিনেছি, তবে প্রায় 10 বার শোনার পরে আমি এখনো জানি না যে আমি এটি 3-3 RPM গতিতে বা 4-5 RPM গতিতে পছন্দ করি কিনা।
Alors comme je me suis planté sur la première, je vais continuer de me planter, ouais. Parce que si ça se trouve, elle sera moins bonne que la première, mais je vais dire plutôt que le ton m'a plu, donc je dirais plutôt qu'elle est bonne.
Elle est bonne. Et alors vous allez voir, je suis sûr que cette critique va vous plaire, vous allez comprendre pourquoi. C'est Mélo Manu qui vous a mis 4 sur 5, et qui dit « Je l'ai acheté en vinyle pour le côté rétro, mais après une dizaine d'écoutes, je ne sais toujours pas si je le préfère en vitesse 33 tours ou en vitesse 45 tours. » Et je me disais, ça a une approche pour le coup un peu artistique de l'écouter à une vitesse différente.
Oui, bah c'est une autre expérience. Ça veut simplement dire qu'il sait pas, il y a des moments où il est plus pressé que d'autres.
C'est ça, sans doute. Peut-être. L'avant-dernière, on l'a traduite en norvégien.
Svindel, det ingen sanger, bare instrumentale, og ikke engang tekster i hefte. Jeg ber om refusjon.
Alors, le norvégien est accueillant d'une manière générale.
Oui.
Donc, mais il faut se méfier. Il y a peu d'humoristes norvégiens connus à l'extérieur.
Ouais.
Donc, je dirais que Ça va être dans la moyenne, peut-être.
Non, elle est mauvaise. C'est la seule mauvaise. Alors, vous allez voir, elle est mauvaise, mais elle est drôle. C'est pour ça qu'on l'a choisie. Armand Damax vous a mis 0 sur 5 avec cette critique. Arnaque. Il n'y a pas les chansons, que les instrumentaux et même pas de paroles dans le livret. Je demande le remboursement.
Alors, je le rassure, j'écrirai les paroles dans un deuxième temps.
D'accord, très bien. Et la dernière, on l'a traduite en persan.
من نمیدانم اگر مرد چیزی از بازی که اما من احساس میکنم من برخی از گوش دادن به آن در اینجا کسی است که فقط اکسیژن را استنشاق نکرده است.
J'ai compris un mot déjà.
Oui,
oxygène. C'est énorme.
Voilà. Moi aussi.
Et toi aussi, vous ouais. aussi. Et en même temps, je pense qu'avec une voix pareille, ça ne peut être qu'une bonne critique.
C'est une bonne critique, 5 sur 5. Et Sébastien Tintin vous a mis, je ne sais pas si le mec a pris des trucs en jouant ça, mais en tout cas, j'ai l'impression d'en avoir pris en l'écoutant. En voilà un qui n'a pas inhalé que de l'oxygène.
No comment.
No comment. J'aime. Qu'on en reste ici, c'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous partageons le bon dimanche chaud avec Jean-Michel Jarre aujourd'hui. Jean-Michel Jarre qui, pour le soir du 25 décembre, nous prépare enfin un bon Noël qu'on va pouvoir passer en famille en regardant sur W9 Versailles 400 et avec ce sentiment de vivre un événement en live. Et ça, je trouve que c'est important. Il y a cet aspect communauté qu'on va tous avoir le 25 en vous suivant, en train de jouer dans cet endroit impressionnant, le château de Versailles. Vous arrivez encore à vous mettre un petit peu la pression ou pas? Jean-Michel.
Oui, grave.
Ouais, c'est vrai.
Ah bah oui. Parce que là c'est un on n'a pas joué la facilité, comme je le disais, on s'installe seulement 24 heures avant.
Ouais.
Donc tout peut arriver techniquement et en plus on est en direct à la télé, à la radio sur RTL. On a donc faire en sorte, et moi j'attache beaucoup d'importance à la qualité sonore, c'est pas ici dans une station de radio qu'on va mégoter avec le son.
Oh, bien sûr.
Et il se trouve que nous avons un ami commun, vous et moi, qui s'appelle David Perrault, qui est en fait mon ingénieur depuis des années de mastering, etc., qui sera aux commandes à la sortie de la console et qui en même temps fait le son d'RTL et du groupe M6 depuis des années.
Ouais.
Donc on devrait avoir un son assez bon à la télé et à la radio. Donc ça c'est plutôt bien, et la pression effectivement est importante dans la mesure où il y a tellement d'éléments techniques qui peuvent nous rendre la vie un peu compliquée que jusqu'au dernier moment ça va quand même, la tension sera à son comble. Elle l'est déjà d'ailleurs.
Ce sera à 20h et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, ce sera également en simultané sur RTL. Nous allons, si vous le voulez bien, réécouter ensemble des moments de votre carrière, cher Jean-Michel. Je vais vous faire écouter des sons. D'accord. Et après, vous allez me dire les souvenirs que vous avez par rapport à ça. 6 juillet 1983, et déjà à l'époque, nous étions sur RTL.
C'est en fait une piraterie à tous les sens du terme. D'abord, une piraterie au niveau du fait que la musique va être diffusée une seule fois sur les ondes RTL et que quiconque voudra l'enregistrer devra l'enregistrer parce que ce sera l'occasion unique. Piraterie aussi vis-à-vis des temples de la spéculation artistique, et piraterie ensuite de sa propre popularité, c'est-à-dire de la mienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes là, RTL, où la télévision est là, ça me donne l'occasion de donner un coup d'éclairage à des tas de jeunes artistes.
Est-ce que c'est pas dingue ? On est le 6 juillet 1983. Votre album Musique pour Supermarché, vous décidez de ne le sortir qu'à un seul exemplaire. Le business model est pas fou hein, pour l'époque, on va pas se mentir. Et alors, vous avez invité les auditeurs en direct sur l'antenne d'RTL à vous pirater. C'est un truc de fou.
Oui, c'était en fait pour réagir sur c'était le plein départ du CD, et où en fait d'un seul coup on sentait qu'on vendait les c'était la mort annoncée des disquaires, où en fait on allait vendre la musique comme des pots de yaourt et comme du dentifrice dans les supermarchés, etc. Et donc du coup j'ai eu l'idée de se dire finalement il faut faisons un geste un peu provoque pour finalement rehausser la valeur du support du vinyle qu'on aime tant. Et donc du coup je me suis dit finalement je vais faire un album. Alors bon, mon producteur était assez fou pour être d'accord, c'est-à-dire que un nouvel album studio allait être donc vendu aux enchères à un seul exemplaire comme une peinture. Et en fait un peu à la manière de l'artiste Banksy, c'est-à-dire de se dire on va faire, et donc finalement c'est le premier NFT. Quand on a parlé des NFT, c'est le premier NFT 40 ans avant. Et donc, ça a été vendu aux enchères et on a brûlé le master aussi en live. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, il n'y avait plus de traces.
C'est génial.
Et en fait, comme pied de nez, donc je me suis fait beaucoup d'ennemis dans chez les grands labels de disques et j'ai demandé, piratez-moi sur RTL. C'est-à-dire que donc tout le monde pouvait avoir accès gratuitement à la musique, mais il l'aurait qu'une seule fois. Donc il fallait pas louper le. Donc il y a encore plein de bootlegs d'enregistrements de cassettes qui existent de musique pour supermarché et qui effectivement a été fait et la pochette et l'album à un seul exemplaire.
C'est dingue. On va finir avec le 23 septembre 2018 et pour le coup on est très dans l'actualité puisque la COP vient de se terminer. 23 septembre 2018, The Green Concert, vous donnez un concert en Arabie Saoudite.
Let's enjoy this unique evening and a historical moment together. Thank you. Shukran.
Un concert entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui vous tient également à cœur, cette notion d'écologie.
Oui, depuis Oxygène, c'est quelque chose qui, à l'époque, on n'était pas tant que ça à être conscient du respect de l'environnement et sans être un fan de Sandrine Rousseau, je veux dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a un véritable sujet. Je pense que les artistes aussi ont un message à porter et je trouve que c'est intéressant dans les productions qu'on a qui sont quand même où on consomme beaucoup d'énergie, de réfléchir à la manière de simplement d'être raisonnable. À Versailles, par exemple, on essaie vraiment aussi d'avoir, dans tout ce que je fais d'ailleurs, dans tous les concerts que je fais, d'avoir justement une réflexion sur l'énergie qu'on dépense, comment on la dépense, sans tomber non plus dans la caricature. Je pense, moi je suis pas du tout dans l'excès sur ce plan, mais je pense qu'il y a effectivement une réflexion qu'on doit tous avoir, et les artistes comme les autres, donc c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur. Mais au-delà de l'aspect écologique, ce qui était particulier dans ce concert en Arabie Saoudite, c'était que moi j'ai accepté de faire ce concert à la condition que les femmes puissent être accueillies comme les hommes à parité égale et qu'elles puissent être, et donc c'était extrêmement, et que ça ait lieu à l'extérieur et que les femmes et les hommes puissent être mélangés, ce qui a été accepté. Et c'était extrêmement émouvant sur scène de voir pour la première fois des femmes en Arabie Saoudite danser dans une soirée comme, et dans un concert comme celui-là. Donc c'est un très très bon souvenir sur ce plan en particulier. Moi je suis contre toute forme de boycott. Je pense qu'il faut aller justement dans les endroits où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres et que c'est une grosse connerie que les artistes font de décider de boycotter un pays ou un autre sous prétexte du régime, parce que ça veut dire finalement d'appliquer une double peine, parce que si les gens qui n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, en plus on décide nous unilatéralement de les priver de cinéma, de musique, de culture, etc., on accentue le problème. Donc il faut aller, demain il faudra aller en Iran, il faudra aller en Corée du Nord, il faut aller dans tous ces endroits là et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire pour ma part, et parce que finalement on est là aussi pour contribuer à cicatriser les plaies d'une certaine manière. Et la musique, elle a ce rôle-là aussi. Donc il faut y aller, quoi.
C'est Jean-Michel Jarre qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va aller dans un endroit que vous n'avez peut-être pas exploré dans une quinzaine de minutes à peine. On va partir dans le futur. Versailles 400, un concert spectacle innovant, imaginé par Jean-Michel Jarre. Et vous allez pouvoir vivre ça en direct sur RTL, en direct sur W9. On va partir dans le futur. Parce que, on le disait, le 25 décembre prochain, pour fêter les 400 ans du château, vous allez donner ce concert spectacle immersif. Ça va se passer dans la galerie des glaces du château de Versailles, mais pas seulement. Et on le disait, ce sera retransmis dans le métaverse. Le métaverse, c'est le futur. On part dans le futur. Jean-Michel, nous sommes en 2040. Les interactions sociales ne se font plus que par écran interposé. Vous ne pouvez désormais choisir qu'une seule personne à voir physiquement. Vous choisissez qui ?
Si je choisis ma mère, mes enfants vont pas bien le vivre. Ma femme non plus. Donc je sors mon joker.
Bon, nous sommes en 2080. Le comité d'éthique a autorisé le clonage de personnes décédées pour faire revivre les talents décédés. Vous choisissez de faire revivre qui ?
J'aurais bien voulu connaître par exemple Jules Verne.
Très bien. Nous sommes en 2098. La science a découvert un traitement pour l'allongement de la vie. Vous avez donc 150 ans. Bon anniversaire, cher Jean-Michel. Et la vie est possible sur Mars. Des gens y vivent. Vous partez ou vous restez ?
J'y vais.
Nous sommes en l'an 3000. Et comme le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu, le bug de l'an 3000 vient effacer toutes les données sur ordinateur de la population et vous n'y échappez pas, cher Jean-Michel. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez perdu de plus précieux ?
C'est plutôt ce que j'ai gagné, parce que je pense que c'est pas mal de faire un reset de temps en temps, de temps à autre, et l'an 3000 me paraît une bonne échéance.
Nous sommes en 3245. Vous avez été cryogénisé, Jean-Michel Jarre, et on décide de vous décongeler. Cette année-là, 3045, quelle est la première chose que vous auriez envie de manger ?
De la mousse au chocolat.
Très bien. Et enfin, nous sommes en 4000. Vous avez désormais 2052 ans et toujours pas une ride. Quel conseil vous donneriez aux générations futures pour être heureuses ?
Ne dormir que d'un œil.
Important, c'est un bon conseil. C'est Jean-Michel Jarre. Encore quelques secondes et c'est les grosses têtes. Ce sont les grosses têtes d'RTL qui arrivent. À tout de suite sur RTL.
Alors moi, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je demanderais 30 minutes de rab pour pouvoir écouter le Bon Dimanche Show. 14h, 15h30 sur RTL.
Merci à Karina Siammer, François Touchard, Agathe Deschamps, Valérie Zetoun, Thaïs Vauquer et Rachel Azria qui m'ont aidé à préparer cette émission. Jean-Michel Jarre était notre invité. Cher Jean-Michel, la tradition veut que, avant de partir, vous fassiez l'interview des 20 dernières secondes. Vous allez voir, c'est 20 secondes pile, chronométré. C'est très manichéen, je vous demande de faire des choix. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer le pourquoi du comment. On y va, top chrono. Jean-Michel Jarre, oxygène ou Equinox ?
Oxygène.
Électronique ou expérimentale ?
Électronique.
Jouer en France ou jouer à l'étranger ?
En France.
Piano ou synthétiseur ?
Synthétiseur.
Record ou récompense ?
Récompense.
C'était une récompense de vous avoir vraiment là pendant une heure et demie pour nous tout seuls ici sur RTL. C'est un plaisir vraiment de vous avoir ici, Jean-Michel Jarre. On sera tous devant nos écrans, bien entendu. Alors, écran d'ordinateur ou écran de télévision, ça se passe ce 25 décembre. Et puis, vous avez également la possibilité de suivre ça en simultané sur RTL. Ça s'appelle Versailles 400. Et j'ai hâte, comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices d'RTL, de voir ce concert-spectacle dont vous êtes l'instigateur. Merci beaucoup, cher Jean-Michel, d'être venu.
Merci, Bruno.
Ici, dans le Bon Dimanche Show sur
RTL. Vrai plaisir.
Les meilleurs moments des grosses têtes, c'est tout de suite. Et on se retrouve la semaine prochaine à partir de 14h. Bon dimanche sur RTL.